Chapitre 75. Thor et son équipier, Nolan, sont postés derrière une fourgonnette noire, dans un quartier résidentiel à la périphérie d'Uppsala. Le reste de l'unité d'intervention est en train de pénétrer dans le jardin de Lars Grint en enjambant la basse clôture blanche. Les opérateurs ont étudié le profil de la suspecte, une femme qui, armée d'une simple hache, a tué deux collègues armés, ainsi qu'au moins 9 civils, hommes et femmes confondus. Tous portent des gilets pare-balles, des masques de protection et des casques balistiques. Thor insère le chargeur dans son fusil automatique, arme la culasse et verrouille le mécanisme avec le pouce. L'angoisse lui serre douloureusement la gorge. Des feuilles mortes et des détritus se mêlent aux flocons de neige tourbillonnant. La rue est jonchée de branches, de boîtes aux lettres arrachées et de vélos renversés. Les mâts des drapeaux se courbent en grinçant et des guirlandes de Noël fouettent un arbre. Dès que les équipes sont en place, Thor et Nolan s'avancent sur l'allée pavée du jardin, leurs armes pointées vers le sol. Toutes les fenêtres de la maison sont plongées dans l'obscurité. Le vent secoue rageusement arbres et buissons. Une luge rouge s'envole par-dessus la clôture du voisin et l'un des opérateurs doit se baisser pour l'éviter. Thor consulte sa montre et donne l'ordre d'attaquer. 3 fenêtres volent en éclats, des grenades lacrymogènes atterrissent à l'intérieur dans un bruit sourd. La porte arrière de la maison est forcée en même temps que Thor défonce la porte d'entrée. Nolan pénètre le premier, fusil automatique levé. Thor le suit. Le faisceau de sa lampe balaye les murs de l'entrée, les vêtements suspendus, puis éclaire brièvement un miroir. Samedi dernier, sa femme Christina est sortie de la maison, vêtue seulement d'une nuisette rose qui lui descendait au nombril. En l'apercevant par la fenêtre de la cuisine, il a compris qu'elle avait pris trop de médicaments. Ses pieds étaient rouges de froid et elle portait des pansements sur les deux genoux. Elle s'est installée dans la voiture, a reculé et s'est encastrée dans la haie de thuya. Lorsqu'il l'a rejointe, elle s'était vomie dessus et avait des traces de mousse blanche de comprimé au coin des lèvres. Il l'a ramenée à l'intérieur. Elle parlait de manière incohérente d'un vieil homme qui s'était étouffé avec un god. Elle répétait que sous chaque escalier, il existait une force grise et crépitante qui poussait les faibles à arrêter de respirer. Quand l'ambulance l'a emporté, Thor s'est assis sur le lit défait et a pleuré comme il ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Nolan sécurise la salle de bain à gauche. Thor enjambe une paire de bottes en caoutchouc noir sur le carrelage marron, entre dans la cuisine, balaye rapidement la pièce avec son arme tandis que Nolan passe devant lui pour le couvrir. Le faisceau de la lampe se reflète sur des couteaux suspendus. Le regard de Thor reste accroché au reflet sombre de la fenêtre de la cuisine. Nolan pivote silencieusement. Une petite goutte de graisse brille sur le canon de son fusil automatique. Thor humecte ses lèvres et pense au fait que les terreurs de Christina se concentrent souvent autour de l'espace sous l'escalier. Elle lui a raconté l'histoire de 2 petits garçons retrouvés étouffés quand elle était enfant. Ils étaient assis face à face sous un escalier, près d'un viaduc, la gorge et la bouche remplies de boue. Les pas lourds des membres de l'unité résonnent dans la maison. Thor suit Nolan dans le salon enfumé et voit le faisceau de la lampe balayer l'escalier menant à l'étage. L'ombre de la rampe se divise sur le mur comme les doigts d'une main. Les éclats d'une fenêtre brisée scintillent sur la moquette bleue. Dans les faisceaux d'encens des lampes, des volutes de fumée prises dans les courants d'air serpentent à travers la maison. Thor a l'impression de basculer dans une réalité parallèle. Tout devient creux et résonne. Le parquet sous la moquette craque sous ses pas. Des souvenirs bariolés provenant du Tyrol se détachent sur une étagère, projetant des ombres obliques. La porte d'un buffet s'ouvre lentement. Thor tente de ravaler son angoisse et avance vers l'escalier. Un bruit métallique tinte sous la moquette, comme s'il marchait sur une plaque d'acier ou le plancher d'un monte-charge. Nolan crie quelque chose à travers son masque. Dans l'angle, sous l'escalier, La fumée forme une colonne. Thor déglutit. Il repense aux paroles de Christina à propos de la force étouffante, tandis que Nolan le dépasse en courant et monte l'escalier. Thor le suit, hésitant, scrutant la fumée entre les marches et la spirale dans le coin. Il s'arrête, passe un doigt sur sa bouche sous la cagoule, mais revient brusquement à la réalité lorsque Nolan tire avec sa Heckler & Koch à l'étage. Thor le rejoint, le cœur battant, et découvre que Nolan a fait sauter la serrure de la salle de bain, enfoncé la porte, et qu'il s'est arrêté. Les essuie-glaces balaient la neige et les saletés du pare-brise. Yuna roule à grande vitesse en dépassant des villages plongés dans l'obscurité, tandis que Thor l'informe que l'assaut contre la maison de Lars Grint est terminé. Elle était vide. Il n'y avait personne, dit-il. Yuna lui demande de vérifier la présence de cachettes et de sous-sols avant de poursuivre vers la clinique du sommeil. Soudain, la tempête se déchaîne. Un raz-de-marée de neige s'abat sur la route. Tout devient blanc. Yuna ralentit. La voiture est entièrement enveloppée dans la neige. Les vitres du côté gauche sont obstruées en quelques secondes. Yuna repense alors aux paroles de Hugo sous hypnose, à ce moment où il disait que c'était à la fois l'été et le plein hiver sur le camping. Il neigeait sur les parasols et les gens prenaient le soleil. Eric a réussi à figer cet instant à l'arrière de la caravane, dissipant le cauchemar pour se focaliser sur la réalité. Lors de la deuxième séance d'hypnose, Hugo a décrit comment le meurtrier avait tranché les pieds de la victime, bien que ça ne se soit pas produit dans la réalité. Ce n'est qu'à la troisième tentative que le rêve a presque totalement disparu, permettant à Hugo de voir véritablement la victime avec ses cheveux blonds platine en bataille. À présent, la description correspond en tout point au rapport de Nolan. L'attaque a débuté par un coup contondant à la tête. Puis une jambe a été sectionnée au milieu de la cuisse, avant que la victime ne soit décapitée et que le démembrement sauvage ne commence. Pris dans le chaos blanc de la tempête, Yuna voit apparaître des formes grises et floues, comme des géants se dressant pour tout détruire sur leur passage. Une soudaine rafale fait chasser la voiture et les pneus frappent la bande rainurée sur le bas-côté. Yuna se remémore la deuxième séance d'hypnose, quand Hugo se tenait sur le bloc de béton léger derrière la caravane. Eric procédait méthodiquement, la menait à regarder à l'intérieur tout en lui permettant de mêler le rêve à la réalité. Hugo a décrit la victime allongée sur le dos, comme dans la réalité, mais avec les pieds sectionnés. L'homme squelette traçait le début de la flèche, exactement comme dans la réalité, mais frappait ensuite la victime au visage avec la hache. Yuna allume les feux anti-brouillard. La visibilité change légèrement, mais il est difficile de dire si elle s'est réellement améliorée. Il réfléchit à la précision incroyable des cauchemars de Hugo. Le parquet, le sang coulant le long d'une baguette en laiton, un vase brisé, une lampe avec un abat-jour imitation peau de serpent. Hugo a décrit le déroulement de la scène avec une angoisse croissante jusqu'au coup fatal et au sang éclaboussant la fenêtre. Le volant tressaille entre les mains de Yuna et soudain tout s'éclaire et s'assemble. Les pièces du puzzle changent de place et s'alignent en un motif parfait. Il est certain d'avoir la réponse. Il appelle aussitôt la prison de Hall et demande à parler à Gerald Pedersen, précisant que c'est extrêmement urgent. La tueuse est d'une dangerosité extrême. Outre les 7 victimes principales, elle a tué 2 témoins et 2 collègues à Lidingö. Petrus Litt a été abattu d'un coup de hache à l'arrière du crâne comme un taureau. Danny Imani a été décapité alors qu'il était à genoux.